Étincelle, le lab philo de la pensée juive. Une émission animée par Pierre Abraham.
Bonjour les philosophes. L'amour du prochain est un commandement central du Lévitique que le christianisme a repris pour en faire la clé de voûte de l'ensemble de son éthique. Mais peut-on réellement aimer tous les hommes? Et si oui, comment cela peut-il se passer? Sinon, comment corriger cet universalisme romantique et naïf? Pour affronter cette question, nous avons avec nous une personne qui a travaillé la philosophie de Platon à Ricoeur, autrice d'un petit livre vif et clair comme l'eau de source, qui s'intitule « Géographie de l'amour », publié aux éditions du Cerf en 2024. Marie Grand, bonjour.
Bonjour et merci pour cette invitation.
Marie Grand, vous êtes professeure agrégée de philosophie, enseignante à l'institution Sainte-Marie à Lyon et directrice du Collège supérieur, qui est une institution lyonnaise destinée à diffuser la philosophie dans la cité. Alors Marie Grand, d'où provient avant tout votre réflexion sur l'amour ?
Alors elle provient de la prise de conscience d'un oubli, d'une sorte d'angle mort. En fait, on pose toujours à l'amour un peu la même question, qui est la question du temps, qui est la question de la durée. Si vous prenez les trois quarts de la production littéraire sur l'amour, on nous raconte toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire la difficulté que nos sentiments ont à affronter l'épreuve du temps, la dilution de nos sentiments, la catastrophe de l'amour. Et en fait, moi, je me suis demandé si la distance, si l'espace n'était pas aussi pour l'amour un défi. C'est difficile d'aimer longtemps, mais c'est difficile d'aimer loin. Et aimer loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer au-delà du cercle de la proximité, la famille, les amis. L'amour est naturellement préférentiel. Donc il commence avec le proche, mais jusqu'où peut-il aller?
En fait, les textes même des Écritures, quand ils parlent de l'amour, ils parlent de l'amour du prochain. Et la notion de prochain est une notion spatiale. Est-ce que c'est cela que vous avez voulu creuser ?
Alors, effectivement, dans prochain, on entend proche. Et on pourrait se dire que c'est une notion objective, le prochain, qu'il y aurait une sorte de cadastre du prochain. Alors, mon livre, qui est un livre de philosophie, donc je pose cette question, peut-on aimer tout le monde ou comment peut-on aimer tout le monde ? Cette question du prochain, je vais la relier à une parabole très célèbre, qui est la parabole du bon samaritain, où on demande à Jésus, qui est mon prochain ?
Pouvez-vous nous la rappeler ?
Alors, cette parabole raconte l'histoire d'un homme, d'un malheureux qui va être agressé par des brigands sur une route qui va de Jérusalem à Jéricho. Deux personnes passent près de lui et restent indifférentes à son sort, le laissent à demi-mort au milieu de la route. Et puis, un samaritain qui a l'air d'être un voyageur, qui n'a pas de destination connue, lui s'arrête, est pris de compassion, le soigne, le met sur sa monture et le conduit à l'hôtellerie la plus proche et le confie aux bons soins d'un hôtelier. Voilà, c'est ça l'histoire. Et en fait, Jésus raconte cette histoire pour répondre à la question « Qui est mon prochain ?» Sauf que, il va reformuler la question. À la fin de l'histoire, il demande à celui qui lui avait posé la question « Qui est mon prochain ?» Il lui demande « Lequel s'est fait le prochain de l'homme blessé ?» Et c'est pas la même question. Quand on pose la question « Qui est mon prochain ?», on s'attend à trouver une sorte de définition objective du prochain, une définition sociologique. C'est lui, c'est pas lui.
Ce qui est d'ailleurs la manière dont ça se passe dans la tradition juive. Dans la tradition juive, la définition du prochain est circonscrite parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire dans une catégorie particulière. Et là, Jésus procède tout à fait autrement.
Exactement. Il montre que c'est pas une catégorie sociologique, il montre que c'est une attitude. Le prochain, c'est celui qui sait approcher. Et d'ailleurs, il ne répond pas, et on aurait pu penser universalisme chrétien oblige, il aurait pu répondre « tous les hommes sont tes prochains ». Donc il aurait pu donner un cadastre infini à l'amour du prochain, c'est pas ce qu'il fait. Comme la récente encyclique du pape François sur la dignité, hein, « tous les hommes sont dignes ». Oui, mais même si tous les hommes sont mes prochains, si je ne m'approche pas d'eux, en fait, ils restent des lointains. Et donc c'est ça le retournement de la parabole, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre qui s'intitule « Géographie de l'amour ». La géographie de l'amour, c'est pas une géographie objective. En fait, nous sommes personnellement responsable de cette géographie. Et le prochain, il dépend de mon attitude morale.
Alors, est-ce que il s'agit, parce qu'il y a deux choses que vous dites, vous parlez à la fois d'un regard, c'est-à-dire être capable de regarder tout autre comme son prochain, ce qui après tout est possible dans une attitude de l'intelligence qui universalise son point de vue, voire sa maxime pour parler comme Kant, mais c'est aussi une question d'approche. S'approcher, ça renvoie à un acte du corps, à la possibilité d'un soin vis-à-vis de l'autre, donc il y a toute une économie, en fait, qui est l'économie, une économie psychique, une économie aussi pécuniaire, une économie juridique. Est-ce que c'est le regard pour vous ou cette question économique qui domine ?
Alors, c'est les deux. C'est les deux et je propose une relecture un peu nouvelle de ce texte très connu qui est un peu l'image d'Épinal de la charité pour les chrétiens. C'est les deux. Le bon samaritain, c'est celui qui s'est approché et il s'est approché parce qu'il a fait attention. Ce que je montre dans le livre, c'est que le premier pas de la vie éthique, c'est d'abord une affaire de regard. C'est celui qui a vu. Alors les deux premiers qui sont passés ont vu aussi, mais ils n'ont pas fait attention. C'est-à-dire que l'homme blessé est rentré dans leur champ de vision, mais il n'est pas rentré dans le champ de leur attention.
De leur action, je dirais plutôt, puisqu'en fait il s'agit d'un lévite et d'un prêtre, donc d'un Kohen, et en fait ils sont passés à côté, peut-être l'ont-ils vu, mais ils n'ont pas pris le temps, en fait, hein, ça relève pas forcément d'un regard.
En fait, je pense que si le regard n'a pas déclenché l'action, c'est que le regard n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mesuré l'état peut-être d'urgence de la situation et ils n'ont pas voulu rebattre les cartes de leur quotidien ou même de leur responsabilité institutionnelle. Peut-être étaient-ils prisonniers d'une institution qui fait qu'ils n'ont pas été sensibles à l'urgence et à l'émotion. Voilà. Mais ce que je montre dans mon livre, c'est que ce premier moment de soin qui commence par l'attention et par l'action, vous avez raison, et donc la compassion, n'est pas suffisant. Et il faut aller jusqu'au bout de la parabole. Et au bout de la parabole, on trouve quoi ? Un personnage qui est généralement négligé, qui est un hôtelier, à qui le bon samaritain remet l'homme blessé. Alors cet hôtelier, généralement, on n'en fait pas cas parce que il est payé, le bon samaritain lui remet 2 deniers et lui donne une consigne, occupe-toi de lui. Donc on est sur un mode qui est quand même beaucoup plus procédural, le mode de la consigne. Et généralement, voilà, on n'en tient pas compte, il fait partie du décor. Or, il y a quelque chose qui m'a intriguée et c'est sur cela qu'est construit mon livre, c'est que le peintre Rembrandt, dans sa représentation de la parabole du bon samaritain, un tableau qui se trouve à Londres, dans la Wallace Collection, peint justement ce moment où le bon samaritain remet l'homme blessé à l'hôtelier. Et justement, c'est une scène collective, on voit toute une petite société s'active autour de cette hôtellerie, l'une puise de l'eau, le palefrenier s'occupe du cheval, voilà, c'est une lecture collective de la parabole, et on voit le visage de tous les personnages, sauf du bon samaritain. Et ça c'est intéressant parce que ça décale complètement le point de vue, c'est une lecture, vous voyez, non héroïsante de l'amour du prochain.
C'est ça. Alors, je voudrais revenir quand même un petit peu en amont, parce que vous faites bien la distinction, effectivement, quand vous regardez la parabole du bon samaritain peinte par Rembrandt, vous voyez les différentes figures, en fait, de l'amour, à la fois chez le samaritain, chez l'hôtelier aussi, en particulier. Et donc, qui sont en fait des figures du regard, on va dire, et de l'attention pour le samaritain, et une figure de l'économie du côté de l'hôtelier. Alors, je voudrais revenir en amont d'abord sur la question du samaritain en tant que tel, pour deux raisons. D'abord, le samaritain, c'est un hérétique. En fait, par rapport, je dirais, au monde d'Israël. Est-ce que ce que, finalement, Jésus essaie de dire au travers de cette parabole, c'est qu'il faut être hérétique pour faire attention au prochain, ou est-ce un sophisme de dire des choses comme ça ? Je veux dire, par là, il faut être capable de prendre des distances par rapport à l'institution pour avoir un regard, quitte à revenir après à l'institution par la question de l'hôtellerie.
Oui, bah voilà, vous avez répondu à la question. Exactement. Je pense qu'il y a au point de départ de la parabole, Jésus s'adresse à un docteur de la loi, donc quelqu'un du texte, peut-être voilà un juriste qui s'attendait à pouvoir un peu ratiociner avec des catégories juridiques. Il lui raconte une histoire, et effectivement, dans cette histoire, c'est celui qui a fait le pas de côté, qui a fait le geste un peu hors système, qui s'est montré le prochain de l'autre. Et effectivement, on peut interpréter l'attitude du prêtre et du lévite comme, et on le voit sur certains tableaux peints par d'autres peintres, comme le risque, le péril de l'institution qui nous rend finalement sourds aux appels qui nous rend incapables d'improviser en fait. Voilà.
C'est ça, comme si l'amour réclamait sans arrêt ce pas de côté, cette capacité à improviser, comme si l'attention à l'autre ne pouvait jamais être catégorielle. Elle était pré-catégorielle, au sens presque de Lévinas, de dire il faut regarder, se laisser regarder d'ailleurs par le visage d'autrui.
Oui, et même si on va plus loin sur la question de l'attention, être attentionné, quand on dit de quelqu'un qu'il est attentionné, c'est qu'il est capable de se mettre à l'écoute de la singularité d'une demande. Parce qu'on peut faire attention, c'est-à-dire voir un problème, voir une demande, mais ne pas lui apporter une réponse ajustée. Il y a beaucoup de générosité qui embarrasse, justement. Et effectivement, ce premier moment, enfin ce que l'amour du prochain doit faire, c'est être attentif à la singularité d'une relation. C'est d'abord un face-à-face, c'est d'abord une rencontre. Voilà. Mais ça n'est, et c'est tout le propos de mon livre, ça n'est qu'un premier moment.
Alors, avant d'aller vers le deuxième moment, je reste en ce premier moment qu'on pourrait dire interpersonnel. Voilà. Finalement, le propre du Samaritain, c'est de vivre l'amour dans une relation interpersonnelle, comme si c'était quelque chose d'absolument fondamental. Et on pourrait dire que le christianisme, et on lui en fait le reproche souvent, a produit une espèce d'universalisme sur la base de l'amour, sur la base de cette attention au prochain. Vous parliez du pape François qui est la figure de cela. Et à partir de cela, on ne distingue plus du tout entre les prochains parce qu'ils sont tous ramenés à égalité. Du côté juif, on lui en a fait le reproche dans l'égalitarisme entre sa considération des Palestiniens et la considération d'Israël autour des suites du 7 octobre par exemple, et d'avoir un peu de mal à faire la différence justement entre toutes ces attitudes-là. Mais est-ce que finalement la parabole dit qu'il faudrait passer à une autre forme d'universalisme, mais elle dit aussi peut-être que cet universalisme tel qu'il s'exprime, qui est uniquement l'universalisme du bon samaritain, est un universalisme qui est aussi en panne, qui est qui est aujourd'hui très en difficulté. Je pense à un livre de Rémi Brague qui s'appelle Après l'humanisme, qui est très très récent et qui questionne justement l'illusion de la modernité d'avoir pu produire une espèce d'universalisme universel.
Oui, alors, j'ai pas lu ce livre de Rémi Brague, mais je suis très sensible à votre question. Et je dirais que donc l'universel peut être un piège, c'est-à-dire que ça peut être simplement l'universalisation d'une particularité. Ça peut être aussi une abstraction vague, en fait un concept de papier. La belle âme. Moi, je dirais que l'universel, c'est pas une donnée de départ. On saute jamais à pieds joints dans l'universel. L'universel, c'est une dynamique, c'est un chemin. Je dirais, pour plagier une phrase qui a déjà eu beaucoup de vie, je dirais qu'on ne naît pas universel, on le devient. En fait, on est toujours situé, on est toujours dans une communauté et on aime de proche en proche. On commence pas par aimer tout le monde, on commence par aimer les siens. Et c'est comme ça que l'amour s'apprend. Il y a, G.D. Evans a remis sur le devant de la scène ce concept d'ordo amoris, Mais c'est vrai, il y a un ordre de l'amour. Et d'ailleurs, il y a des responsabilités juridiques qui nous sont affectées en fonction de cet ordre de l'amour. C'est-à-dire qu'on est responsable devant la loi de s'occuper d'abord de ses enfants plutôt que ceux des autres. Donc, moi, je repars de là et je montre que dans la parabole du bon samaritain, il y a des lieux, il y a une toponymie, il y a des fonctions. C'est pas n'importe quel homme qui rencontre n'importe quel homme. Et c'est très probablement un juif, cet homme qui est à terre. Et donc, si on prend le problème des migrants, c'est pas un homme qui arrive sur les rivages de la Méditerranée, c'est un certain homme avec une certaine culture. Voilà, donc... Moi, je réancre l'universel dans le particulier, et je crois que c'est la trajectoire de la Bible. La Bible commence par une histoire de famille, par des histoires de famille. En revanche, et c'est tout l'enjeu, cet amour qui est d'abord particulier doit apprendre à lutter contre lui pour s'ouvrir. Et c'est tout le combat de l'amour. Et c'est ça, pour moi, qui illustre le bon samaritain. Le bon samaritain, je reviens au problème de départ. Le défi de l'amour, c'est la distance, c'est d'aller loin. Et ben, c'est celui qui aura réussi à ouvrir un peu l'amour, mais sans sauter à pieds joints dans l'universel. Ça, c'est évident.
C'est ça. Dans le monde juif, en fait, cette question, elle est capitale, puisque évidemment, le judaïsme est ouvert à l'universel. Il est destiné à toutes les nations. La bénédiction d'Abraham est pour toutes les nations. Donc, il est évident qu'il y a une perspective universelle. Mais cette perspective universelle, elle n'est pas donnée immédiatement. Elle ne peut être donnée qu'au travers un chemin qui est pour les juifs le chemin de la halakha, et qui passe par une singularité, la singularité de la circoncision, la singularité de la Torah, de sa mise en pratique, de son étude, etc. Et l'universel se construit sur la base de cela, et c'est tout à fait autre chose qu'un universel abstrait qui serait celui des droits de l'homme, par exemple.
Mais du coup, on comprend que le combat de l'amour, c'est un combat intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour combat contre ses propres angles morts, en fait, contre sa logique au départ préférentielle. Mais en même temps, c'est ça que je trouve passionnant dans cette question. C'est-à-dire que l'amour est d'abord préférentiel, et il doit lutter contre lui-même, pour s'ouvrir. Et ça, c'est dès Cain et Abel. C'est-à-dire que dès Cain et Abel, on voit que déjà, dans cette fratrie, être deux, c'est trop. Voilà.
C'est ça. Alors, on va passer à la deuxième partie de votre livre et de la question, c'est-à-dire après avoir mis en valeur la dimension interpersonnelle de l'amour et la nécessité par là de dépasser les catégories institutionnelles, faire un pas de côté, culturelle. Comme vous l'avez dit, les catégories culturelles, sociologiques, etc., qui, pour entrer dans de l'interpersonnel, dans une véritable attention, il s'agit aussi de le quitter pour que l'amour puisse s'ouvrir et se vivre au travers d'une économie. Et pour vous, dans la parabole, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la figure de l'hôtelier qui est cette figure de l'économie qui s'ouvre d'ailleurs par la question de l'argent.
Oui, alors, voilà, moi je propose pour... avoir une sorte de vue globale de ce qu'est l'amour du prochain, de rebaptiser cette parabole, la parabole du bon samaritain et de l'hôtelier. Parce que ce texte est très court, et c'est quand même curieux que figure cet hôtelier et que figure ce détail de l'argent, des deux deniers. Et le bon samaritain dit même à l'hôtelier à qui il donne ces deux deniers qu'il viendra rembourser si ça n'est pas suffisant et s'il doit avancer des sommes. Donc, dans un texte extrêmement court, il est question d'argent. Et ce qui est très curieux, c'est que Rembrandt, qui a peint beaucoup d'eau-forte de cet épisode, revient toujours là-dessus. Sur une de ses eaux-fortes, il a écrit à l'arrière « Le bon samaritain paye l'hôtelier et le remercie ». Donc, il a placé au cœur de la grande geste de la charité l'argent. Et je trouve ça quand même extrêmement intéressant. Et ça doit nous interpeller. Et donc, moi, j'en conclus que, oui, l'amour du prochain, c'est le pas de côté. C'est le moment où il faut improviser. Mais c'est aussi le moment où il faut s'organiser. Et donc, en passer par la figure de l'institution. C'est-à-dire que là, je fais un peu de philosophie et je montre que derrière la figure de l'hôtelier, il y a la dimension institutionnelle du soin qui a pour but, en fait, d'aller au-devant de trois difficultés. Le temps. C'est-à-dire que aimer, c'est bien. Inventer une rencontre, c'est bien. Mais il faut la continuer dans le temps. Et c'est à ça que sert une institution. La question du nombre. Combien d'hommes blessés le bon samaritain peut-il secourir dans sa journée ? Très peu. Peut-il sillonner toutes les routes de Palestine ? Sûrement pas. Donc comment faire que l'amour change d'échelle ? question du monde, non, comment aimer beaucoup, comment aimer loin. Et puis, la question aussi des périls et des maléfices propres de la relation interpersonnelle. La relation interpersonnelle, on le sait, ça peut être un lieu d'emprise terrible, d'une trop grande proximité. Et donc, l'institution, elle va répartir les tâches, elle va assigner des rôles, elle va mettre des distances, elle va aussi, d'une certaine manière, rationaliser le service, en faisant qu'on ne donne pas tout au premier venu. Un service d'urgence, il ne va pas tout donner au premier homme blessé qui arrive. Il va s'organiser pour d'ailleurs même soigner ceux qui ne sont pas encore blessés et qui viendront peut-être dans la nuit. Et donc ça suppose... donc on change effectivement un peu de dimension. On passe peut-être dans la dimension de la justice.
Absolument. Et là, c'est la question du passage de l'amour à la justice. Alors, vous commentez ça, parce que vous reprenez des textes d'Emmanuel Lévinas sur la question, en disant finalement, par rapport à l'amour, la justice est une mise en ordre de l'amour. Mais c'est aussi très contre-intuitif par rapport à Lévinas, parce que pour Lévinas, il me semble que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'amour n'est jamais véritablement premier. La justice est premier, est première. Et donc, c'est le rapport à l'autre est une ouverture à la justice et pas à l'amour, justement. Et l'amour est, quand Lévinas en parle, quelque chose qui relève de la proximité. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Et c'est très intéressant, d'ailleurs, si je creuse un petit peu, et ça ouvre plusieurs questions auxquelles vous allez réagir, c'est que, si on prend le travail du Talmud, par exemple, le Talmud ouvre très immédiatement la réflexion sur la justice, par exemple, dans le commentaire de la loi du Talion, il l'ouvre sur la question de l'argent. C'est-à-dire, que disent les Haramim, les sages? Ils disent, quand il est question de œil pour œil, d'œil pour dent, il est question, en fait, d'argent. C'est-à-dire de quelle est la réparation financière qui est à donner quand il y a un œil qui est perdu, en tenant compte de la situation même. Et en fait, l'argent devient le vecteur permanent, pas exclusif, mais un vecteur quand même extrêmement important de la question de la justice.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec la priorité de la justice par rapport à l'amour. Et en fait, on pourrait, dans la parabole que je viens de raconter, régresser dans le questionnement. C'est ce que fait Martin Luther King. On pourrait se dire, c'est ce que fait Martin Luther King, peut-être que les deux personnes qui s'éloignent, le lévite et le prêtre, il imagine ça en s'amusant, allait en fait à une réunion de l'association pour l'amélioration des routes de Jéricho. C'est-à-dire qu'il prenait peut-être le problème bien en amont. Et c'est vrai qu'il vaudrait mieux d'un monde où il n'y a pas de brigands, d'un monde juste. Donc oui, la justice est première et l'amour est peut-être un correctif ou une manière de réchauffer ce que la relation juridique peut avoir aussi de froid, de distant, etc. Mais oui, la justice absolument est première. Et ce qu'elle prend en compte, alors si je reviens à Lévinas, c'est la question du tiers, c'est-à-dire celui que dans toute relation interpersonnelle, on ne voit pas et qui est potentiellement un tiers exclu de la relation. C'est-à-dire que la relation, aussi belle soit-elle, aussi chaleureuse, aussi authentique soit-elle, elle risque toujours d'être injuste auprès d'un tiers. Ce que je donne au mien, ce que je prends pour moi, est-ce que en le faisant, je ne lèse pas un tiers que je ne vois pas et qui ne peut rien réclamer? Voilà. Et donc, le souci de la justice, c'est le souci justement du tiers et la nécessité de sortir de l'orbe de la seule relation courte du face-à-face, la relation interpersonnelle.
C'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a ici, ce tiers serviteur, vous avez des passages très très beaux dans lesquels vous le nommez, hein, vous dites celui qui a fait les routes, celui qui est à l'hôpital, celui qui a peut-être même fait l'appel avec laquelle on va faire les routes, en fait. Tout cela n'ont pas de nom, mais tout cela sont de véritables tiers qui sont des médiations de l'amour. Pour vous, hein, pas des médiations de la justice, vous dites, c'est des médiations de l'amour. Et ça, j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus, parce que quand on dit amour, on dit une présence personnelle, on dit de l'interpersonnel. Quand on dit justice, chez Lévinas, on dit un rapport à l'autre, qui, au bout du compte, n'est pas à penser de manière personnelle, mais comme un rapport de responsabilité.
Oui. Alors, en fait, mon inspiration pour ce texte, certes, je parle de Lévinas et du tiers, mais c'est davantage Paul Ricoeur et un tout petit essai qui s'appelle « Le socius et le prochain », dans lequel, en fait, Paul Ricoeur parle de la parabole du bon samaritain et montre que, en fait, on a deux modalités de relation à l'autre, le socius et le prochain, c'est-à-dire des relations longues. Effectivement, toute cette communauté, cette solidarité que je ne vois pas et qui porte au quotidien mon existence, le fait que peut-être on fait un métier, on est toute la journée derrière un tableau Excel et on sert des gens qu'on ne voit pas, et pourtant on leur rend un authentique service. Et puis des relations courtes, du face-à-face, qui sont chaleureuses, qui sont de l'ordre de la présence, où il n'y a pas de médiation. Voilà. Et ben Paul Ricoeur propose de ne pas les opposer et de les intégrer toutes les deux à la question de l'amour du prochain, relation longue et relation courte. Et ça suppose, alors je ne sais pas si c'est effectivement... orthodoxe par rapport à Emmanuel Lévinas, mais moi c'est ça qui me plaisait dans cette idée. Ça suppose de revoir, de rebattre les cartes de notre imaginaire de l'amour, parce que on a un imaginaire de l'amour qui est un peu romantique, où l'amour c'est toujours la relation intense, et ça nous conduit en fait à déserter d'autres lieux d'engagement, notre métier, notre rôle social, qui sont aussi d'authentiques lieux de service. En fait, je donne une définition de l'amour qui est très large. Je dis aimer, en fait, c'est faire quoi ? C'est entretenir les autres dans la vie. Donc, bien sûr, dans les relations courtes, je le fais, mais aussi dans les relations longues. Et donc, ça veut dire que j'ai à me demander quel rôle social je veux occuper. C'est aussi ça, le premier moment de l'éthique. C'est pas quel superbe bon samaritain je serai, c'est quel hôtelier utile je peux être aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous les travaillez tous les deux comme deux figures au fond de l'amour et qui sont connexes, qui doivent grandir l'une avec l'autre ? Ou est-ce que, pour vous, l'ordre de l'hôtellerie, finalement, doit s'accomplir dans un ordre interpersonnel ? C'est une véritable question très contemporaine, par exemple quand on a le souci de la relation et de l'accueil dans les services publics, quand on se préoccupe que les professeurs, vous êtes enseignante, aient une relation personnelle avec chaque enfant, puisqu'on vise à individualiser le parcours, par exemple, d'un élève. Donc en fait, tout se passe comme si tout devait être finalisé par l'amour. Et qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors moi, j'en dirais que c'est une dialectique. Je termine le livre par une citation de Paul Ricoeur qui dit « Aussi n'avons-nous entre les mains que les morceaux brisés de l'unique charité ». C'est-à-dire que ces deux visages de l'amour, en fait, ces deux morceaux brisés, ils sont profondément contradictoires et ils sont sans cesse en train de se corriger. Bien sûr que la justice est première, mais elle est toujours inquiétée en fait par l'amour. Et cet hôtelier, ce bon samaritain, effectivement, il traverse toutes nos positions sociales. C'est-à-dire quand, surtout pour les métiers de service, qu'on soit soignant, qu'on soit enseignant, en fait, on est toujours à l'interface de ces deux relations. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je dois bien obéir aux consignes de l'éducation nationale et délivrer un programme qui est le même pour tous les élèves et qui est la condition de la justice sociale. Mais en même temps, je dois le faire en maintenant la singularité d'une relation. Mais cette singularité de relation, elle peut être aussi, elle a ses maléfices propres, trop grande proximité, préférence. Je vais me mettre à préférer certains élèves, ou alors vous allez aux urgences, vous êtes content de ne pas... Que le praticien qui vous accueille ne mise pas tout sur la relation et le feeling qu'il ressent vis-à-vis de vous. Vous êtes content qu'il mette en place des process qui garantissent l'équité du service pour tous. Voilà. Donc, c'est, il n'y a pas de bonne solution. C'est un équilibre permanent à trouver. Et c'est pour ça que Rembrandt montre le bon samaritain et l'hôtelier en train de discuter, certes d'abord d'argent, mais aussi de se corriger réciproquement.
Merci Marie Grand pour cet échange vif sur ce livre qui est aussi très vif et dont je conseille la lecture. Donc Géographie de l'amour, une autre histoire du bon samaritain aux éditions du CERF et qui a été édité en 2024. À tous Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur le site de RCN, à la rubrique Étincelles, ainsi que sur la page Facebook des Étincelles. Bonne semaine à tous les philosophes.
Merci beaucoup, au revoir.
Étincelles, le lab philo de la pensée juive. Une émission animée par Pierre Abraham.